Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Il est 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que, avec le générique d'ailleurs, que vous êtes dans l'émission Club de la Presse. Nous sommes au mercredi 29 mai 2024. Merci de nous choisir pour cette émission troisième du genre pour le compte à l'heure de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vito Guetomega est à la mise en onde. Il assure également la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Comme de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Mais nous savons déjà que nous sommes au mercredi. Mercredi, santé, éducation et là, nous parlons santé, bien sûr. Abel, William, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Et j'espère que tu vas bien.
On rend grâce à Dieu.
On rend grâce à Dieu, c'est l'essentiel. Alors, ce matin, votre journal Santé Éducation est dans les kiosques. Hein, et nous savons que c'est en papier aussi, en PDF, bien sûr. Et vous avez, comme vous avez l'habitude même d'ailleurs de le faire, vous avez traité alors des sujets très importants alors sur ce qui concerne notre santé. Vous nous parlez ce matin alors des boissons et vous dites boissons à la canette, à la cannelle, pardon, pour un poids santé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que dit l'article?
Oui, nous avons encore fait un focus ce mercredi sur l'alimentation. Il faut bien manger. Et nous avons parlé d'une épice qu'on trouve sur le marché togolais et surtout en poudre. Il s'agit de la cannelle. Donc la cannelle, c'est une épice très, très vertueuse et qui est réputée d'abord pour... en fait, contribuer bien pour lutter contre le diabète. C'est-à-dire que ça stabilise la glycémie dans l'organisme. Donc, et cet article, bien cette information que nous donnons aujourd'hui, est beaucoup plus liée à notre poids. Parce que les études ont prouvé que la cannelle est une épice qui contribue à gérer ou bien à éviter l'obésité ou bien le surpoids.
Ah ben, oui, sur ce point, cannelle même, qu'est-ce que c'est?
C'est une épice.
Ah, d'accord.
C'est une épice qu'on trouve sur le marché, surtout en poudre. Voilà, donc vous allez dans les épiceries, dans les centres diététiques, vous demandez la cannelle, vous êtes servi. Donc, les études ont prouvé, en fait, qu'il y a un composant important dans la cannelle qu'on appelle la cinamaldéhyde. Voilà ce composant important qui contribue, en fait, à brûler les graisses. Donc, nous avons concocté une recette maison qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Donc, la cannelle avec l'ananas et le thé vert. Donc, que toute personne en surpoids ou obèse peut faire afin de diminuer son poids et avoir un poids santé.
Mmh. Est-ce que pour ce qui concerne la consommation, est-ce qu'il y a des doses hein, pour cela ou bien on peut le consommer à convenance? D'accord.
Comment le prendre, quand le prendre, donc c'est une recette maison. Et on évite sincèrement les personnes en surpoids, les personnes obèses et ceux qui ont tendance également à voir qu'ils sont en train d'aller vers un surpoids, qui a un gros ventre, à faire cette recette maison. C'est important pour le santé.
D'accord, puisque l'obésité n'est pas bon pour la santé, donc rapidement, il est très important quand même qu'on aille vers cette boisson à cannelle telle que vous l'avez dit, et c'est une recette maison telle que vous l'avez dit, bien sûr. Alors, vous nous parlez aussi d'autres choses, et dans un autre article, vous titrez « Bien manger, c'est aussi écouter son corps ».
Exact. Bien manger, c'est aussi écouter son corps. Vous savez, selon beaucoup de nutritionnistes, il n'y a pas une définition exacte de ce qu'on appelle bien manger. En fait, cette définition prend en compte plusieurs paramètres. Et ces paramètres sont importants parce que ces paramètres nous recommandent certains critères pour nous amener à bien manger, en fait. Donc, ces recommandations, en fait, sont de 5. Je vais essayer de les expliquer. Donc, ce sont des chercheurs, ce sont des nutritionnistes. Donc, on a 5 recommandations. 1, il faut réduire la consommation des graisses, du sel et du sucre. Ça, c'est la première recommandation. 2, il faut augmenter fortement la consommation des fruits et des légumes. 3, il faut réduire au maximum la consommation des aliments transformés et ultra-transformés. Et ça dit, et plutôt favoriser les plats faits maison. Voilà. Et 4, il faut limiter, si possible, le grignotage. Et pour finir, le 5, il faut boire suffisamment de l'eau.
C'est très important.
Voilà. Mmh. Donc, ces recommandations, en fait, nous permettent de bien manger. En fait, nous envoient sur des pistes d'une bonne alimentation. Donc, pourquoi c'est important également d'écouter son corps? Parce que il suffit d'être à l'écoute de son corps et de faire confiance à ses sensations. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut ressentir la faim avant de manger. Donc, beaucoup ne ressentent pas la faim avant de manger. Et cela cause des comportements boulimiques ou bien anorexiques. Vous allez voir des gens, à peine une heure de temps, ils mangent. Après une heure de temps, ils mangent encore. Donc, ça, c'est des comportements boulimiques. Et ces comportements ne favorisent pas une bonne santé. Donc, notre écoute, bien l'écoute de notre corps, permet de bien gérer les repas. Donc, quand on écoute bien notre corps, ça permet de bien gérer les repas. Et également, les études ont démontré que ça apporte de grands bénéfices psychologiques également. Donc, quand on sait qu'on a faim, on mange. Et là, notre humeur, notre psychologie et notre bien-être travaillent très bien. Il faut essentiellement écouter son corps et bien manger.
Voilà, il faut essentiellement écouter son corps et bien manger parce que notre corps a toujours un message à nous donner et il est très important d'écouter alors ce message et manger conformément alors à ce message adressé par le corps. Merci beaucoup Abel. Je ne sais pas si vous aimez sourire d'habitude.
Il faut sourire.
C'est important.
Oui.
D'accord. Vous nous proposez un autre article aussi hein, où vous dites alors que contre le stress, il faut sourire.
Exactement. Nous sommes tous exposés aux situations de stress, aux situations stressantes. Et même si on ne le veut pas, on est toujours stressé. Donc, une recommandation.
C'est malgré nous.
Voilà. Donc, une recommandation importante, santé, c'est de sourire, c'est de rire.
Donc, on dit même que la vie en soi, même, c'est du stress.
Il y a déjà un auteur, Charlie Chaplin, qui dit en fait, un jour sans rire est un jour perdu. Voilà. Donc, c'est important de rire pour se déstresser, pour avoir cette bonne humeur et pour lutter contre le stress.
Justement, c'est très important de lutter contre le stress et là, il faut toujours sourire. Il faut sourire. Des fois même d'ailleurs, tu sais qu'on arrive même à forcer le rire ou le sourire.
Et ça, le rire vient faire aussi sur l'organisme.
Ah bon? Quand on force le rire?
Malachie s'est dit, quand on force le sourire, oui. Ça a de réels bienfaits psychologiques sur l'organisme.
D'accord, riez donc, il est très important que nous rions, et forçons même d'ailleurs de rire, c'est important. Alors, Abel, votre journal est en papier, en PDF tel que je l'ai dit maintenant, c'est déjà disponible dans les kiosques, voilà, et c'est à quel prix, et s'il y a un numéro également sur lequel on peut retrouver, où on peut avoir le journal, quel est ce numéro?
Oui, la version PDF sur notre site www.sante.com. éducation.tg et on peut nous contacter sur le 96 14 96 97 le 91 79 47 07. La version papier déjà dans les kiosques et à Miron.
Abel, merci beaucoup à toi d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir hein, d'être avec toi et pour décrypter l'actualité, surtout sanitaire, hein, et telle que mentionnée surtout alors dans le journal Santé Éducation. Merci Abel et bonne journée à toi. Alors, sans transition, justement, nous parlons encore de la santé. Et cette fois-ci, nous recevons Monsieur Akakpo Koutone Komlan. Monsieur Akakpo, bonjour.
Bonjour, bonjour et bonjour aux auditeurs.
Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. C'est Koutone. C'est Koutone. Oui. Voilà, ok. C'est Monsieur Akakpo Koutone Komlan. Alors, vous êtes chef service affiliation à INAM, bien sûr. Et il y a également Monsieur Docteur Mba Kofi. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, vous êtes coordonnateur délégation régionale Lomé commune. Nous allons parler alors de l'INAM, bien sûr, et surtout de l'AMU. L'AMU, alors, depuis le 1er janvier 2024, l'assurance maladie universelle est opérationnelle. Et c'est une grande réforme sociale hein, qui est née de la volonté alors du gouvernement. Cependant, cette réforme suscite certaines interrogations. Nous allons parler même d'ailleurs de ces interrogations. Alors, monsieur Kapo, dites-nous brièvement ce qu'est l'assurance maladie universelle.
Ok, merci beaucoup. Donc, je crois que pour faire plus simple, je vais prendre un exemple que j'ai l'habitude de donner et qui se trouve dans nos communautés. Et quand nous allons dans nos communautés, surtout à la base, les membres de la communauté le plus souvent se regroupent et font des cotisations pour que quand un membre de la communauté est atteint ou est frappé par un événement ou un risque, alors on puise dans cette caisse-là pour lui venir en aide. Et nous appelons ça souvent communément « Habobo ». Et il y en a ça. Donc l'assurance maladie aussi, c'est cette forme de solidarité, mais seulement à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'on se met ensemble, on met quelque chose de côté pour que si un concitoyen tombe malade, il doit faire face aux risques financiers ou aux problèmes d'argent de la maladie. Alors on puise dans cette caisse-là pour soulager un peu la personne.
Et concrètement, c'est quoi ces avantages?
Alors, quel est le premier avantage? C'est que ça réduit le risque financier face à la maladie. Ça, quand on est dans un système sans assurance, ça veut dire que si je tombe malade ou un membre de ma famille est malade, si ça coûte 100 000 francs, je dois débourser les 100 000 francs moi-même. Et si je n'ai pas les 100 000 francs, qu'est-ce que nous faisons souvent? On dit à la personne, ok, attends, quand je serai payé, je vais vous amener à l'hôpital. Ou ça veut dire qu'on retarde le recours aux soins. Ou soit on va à l'hôpital, on fait la consultation et on dit reviens demain pour faire telle analyse et le patient ne revient plus. Donc ça veut dire que le premier avantage, c'est que ça nous permet d'aller aux soins et de réduire le problème d'argent, le risque financier, parce que quelqu'un va payer. Donc on ne va plus attendre et laisser la maladie se développer à un niveau peut-être difficile à soigner avant d'aller.
D'accord.
Même pour nos formations sanitaires, il y a un avantage. C'est-à-dire qu'on sait que les soins qu'on va donner au patient sera payé. Généralement, quand nous allons à l'hôpital, on nous demande « Est-ce que tu as une assurance ?» Ça veut dire que cela rassure même le prescripteur quand tu as une assurance, parce qu'il sait que quelqu'un va payer et il est libre de faire les soins normalement. Donc il y a un avantage aussi bien pour le bénéficiaire que la formation sanitaire.
D'accord. Alors, sur ce point, quels sont même d'ailleurs les principes fondamentaux de l'AMU?
Voilà. Bon, on peut citer comme principe premièrement l'universalité. C'est-à-dire que ce qu'il faut à la base pour que l'assurance maladie marche, c'est que tout le monde soit dedans. Tous les citoyens doivent être dedans. Beaucoup reprochent à l'État pourquoi l'assurance n'est pas volontaire, pourquoi on ne nous a pas consulté, pourquoi on ne nous a pas laissé faire le choix si on veut ou pas. Maintenant, imaginons qu'on dit que c'est volontaire. Cela veut dire que ceux qui ont les moyens de se soigner eux-mêmes ne seront pas intéressés. Et l'assurance maladie risque de devenir un club de misérables. C'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui vont se retrouver. Et comme ils n'ont pas moyens, ils ne vont pas faire de cotisation à la hauteur et ils ne pourront pas avoir des soins de qualité. Donc, pour que l'assurance maladie marche aussi bien au Togo que dans d'autres pays, il faut que tout le monde soit dedans. Et ça fait appel au deuxième principe qui est la solidarité. On est solidaire. Si nous sommes dans une famille et on est 10 enfants et qu'il y a 3 qui sont favorisés par la nature ou la grâce divine et qui s'en sortent et qui disent que nous, on n'est pas dans les autres problèmes. Dans le problème des autres, si quelqu'un est malade dans la famille, ça ne nous regarde pas. Donc, chacun se débrouille. La famille ne sera pas viable. Il n'y aura pas la solidarité, il n'y aura pas la cohésion dans la famille. Donc, c'est l'assurance maladie qui a comme principe la solidarité. Tout le monde doit participer. Donc, ceux qui sont riches comme ceux qui sont moins riches doivent participer. Et je vous dis que par l'expérience de l'INAM, c'est ceux qui sont actifs et qui contribuent plus qui permettent de soigner les personnes du troisième âge, les retraités, mais qui contribuent moins. Donc voilà aussi un principe. L'autre principe aussi, c'est la cotisation préalable. On cotise quand on n'est pas malade et quand on est malade, on puise dans la caisse. Donc on n'attend pas d'être malade avant de courir vous venir régler des arriérés à l'assurance maladie. Donc c'est un principe fondamental. On cotise quand on est en bonne santé pour que quand la maladie survient, on puisse avoir les moyens de faire face à la maladie. Beaucoup de gens disent que je cotise pendant 10 ans, 20 ans, mais je ne suis pas tombé malade. Et on a l'impression qu'on a cotisé en l'air. Non. Quand nous prenons pour nos véhicules, quand on les assure, personne ne prie pour faire accident. Mais on continue chaque année par renouveler. Peut-être que si par malheur on fait un accident, peut-être 25 ans après, on peut même consommer tout ce qu'on a causé pendant 20 ans. Donc c'est ça l'assurance maladie. Quand on contribue, on doit savoir que ça profite à un autre concitoyen, jusqu'à ce que nous aussi, ce risque...
Et c'est le système de la solidarité ou le principe de la solidarité.
Exactement.
D'accord. Alors, docteur Mba, c'est vrai, quelles sont les catégories professionnelles ou socioprofessionnelles gérées par chacun alors des organismes, c'est-à-dire l'INAM et la CNSS?
Oui, l'INAM et la CNSS gèrent des catégories socioprofessionnelles bien précises, définies dans le décret numéro 2023-097-PR. Donc, selon ce décret, l'INAM a à sa charge les fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit public, les membres des institutions publiques pour la durée de leur mandat, les titulaires des pensions civiles et militaires, les personnes et ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale. Résumé, je dirais que l'INAM prend en charge, en gros, les fonctionnaires et tous les agents publics en activité et à la retraite.
D'accord. Et maintenant, y a-t-il des assurés qui étaient pris en charge par l'INAM et qui sont actuellement reversés à la CNSS? Si oui, qui sont-ils exactement?
Oui, évidemment, il y avait des assurés pris en charge par l'INAM qui ont été reversés à la CNSS, toujours selon ce décret, parce que la CNSS a pour obligation de couvrir les travailleurs régis par le Code du travail, notamment ceux assujettis au régime général de sécurité sociale, les titulaires de pension conformes au régime général de sécurité sociale, les travailleurs indépendants, les travailleurs opérateurs des secteurs informels et agricoles, les ministres des cultes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'INAM non seulement prenait en charge les agents publics en activité comme à la retraite, mais on avait intégré les artisans, on avait intégré des agriculteurs, et il y avait des gens qui dépendaient du budget autonome des structures publiques. Quand nous prenons les structures, par exemple, vous avez des gens qui dépendent du budget autonome et donc ils n'étaient pas fonctionnaires, qui étaient pris en charge. Donc, dans le décret, l'État a fait de telle sorte que ceux dont les pensions vont à la CNSS vont verser également leurs cotisations AMU à la CNSS. Donc, toutes ces personnes-là ont été reversées à la CNSS.
Donc, ce qui veut dire que c'est la CNSS qui gère tout maintenant?
Non, la CNSS ne gère pas tout. L'AMU, c'est l'INAM et la CNSS. Il y a les deux organismes gestionnaires. L'INAM qui gère les agents publics en activité et à la retraite. À cette couche va s'ajouter les vulnérables que l'État nous donnera après. Donc, la CNSS gère tout le reste.
D'accord.
Du privé, va gérer bientôt les indépendants, les formels, etc.
D'accord. Alors, Monsieur Capo, que doivent faire les assurés INAM qui sont reversés à la CNSS?
Oui, en fait, pour compléter un peu d'abord ce que le docteur a dit, il faut dire qu'il y a des agents aussi en détachement qui sont pris en charge par l'INAM. Donc, bref, il faut dire que tous ceux qui relèvent de la caisse de retraite du Togo pour leurs prestations de sécurité sociale relèvent de l'INAM. Et tous ceux qui relèvent déjà, contribuent déjà à la CNSS, demeurent là-bas pour l'assurance maladie. Alors maintenant, comme l'a dit le docteur, au-delà des agents de l'État, INAM a commencé par prendre en charge le personnel des structures privées qui souhaitaient offrir la couverture maladie à leur personnel. Ce qui fait que avant le 1er janvier 2024, l'INAM avait dans son portefeuille des agents, des salariés du privé, des artisans et des producteurs ou des agriculteurs. Alors maintenant que, avec les nouvelles dispositions de l'assurance maladie universelle, cette cible-là revient à la CNSS. Donc ces assurés ont migré de l'INAM vers la CNSS. Donc l'INAM a transféré ces fichiers-là à la CNSS pour la poursuite de la couverture maladie de ces agents-là. Alors ces agents-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se rapprocher de la CNSS pour faire les formalités et avoir la nouvelle carte d'assurance maladie au niveau de la CNSS. INAM a d'abord donné 3 mois, c'est-à-dire que le 1er janvier 2024, qu'il y a eu ces nouvelles dispositions, INAM a continué par prendre en charge ses assurés jusqu'à fin mars. Donc c'est à partir du 1er avril que la prise en charge de ces assurés-là a cessé au niveau de l'INAM. Donc on avait donné 3 mois pour que ces assurés-là puissent faire les formalités au niveau de la CNSS. L'autre chose, c'est que ces assurés doivent rendre leurs outils INAM à l'INAM. C'est-à-dire que puisqu'ils ne contribuent plus à l'INAM depuis le début de l'année et que c'est maintenant à la CNSS que leur cotisation d'assurance maladie est versée. Donc c'est la CNSS de les prendre en charge. Donc ces assurés doivent rendre leurs outils à l'INAM.
Mais déjà sur ce point, comme nous avons la numérisation ou la digitalisation aujourd'hui, comment se fait-il que déjà la CNSS ou du moins l'INAM, les deux entités, ne fassent pas le travail pour que du moins celui qui est concerné, celui qui est bénéficiaire, alors reste chez lui et peut-être déjà c'est la CNSS qui prend le contrôle de tout?
Oui, c'est, on peut dire que c'est une forme de gestion. On pourrait dire que celui qui a été à l'INAM reste à l'INAM.
Tout à fait.
Continue pas à avoir l'assurance. Les deux structures peuvent s'entendre pour voir comment peut-être la CNSS récupère la cotisation de ces gens en reverse à l'INAM qui continue pas à être. Mais le système que l'État a choisi, c'est l'unicité de caisse. Que chacun reste là où il contribue déjà. Parce que comme il a dit, il y a des structures qui ont des agents mixtes. Au lieu que ces agents, pour ne pas amener des confusions dans la prise en charge, même au niveau de nos prescripteurs, il faut que chaque organisme puisse vraiment circonscrire son périmètre et gérer ses assurés.
D'accord. Oui, Sylvestre, vous voulez poser une question? Bonjour d'abord.
Oui, bonjour Pascal et bonjour Patricia. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Mais si vous voulez la petite musique, c'est indépendant de ma volonté. Alors, j'ai quand même deux questions à mon frère.
Monsieur Akakbo.
D'abord, expliquez-nous c'est quoi un agent en détachement, puisque vous venez donc de le dire dans votre communication. Et puis ma seconde question, c'est que l'INAM avait commencé le travail et l'INAM prenait et les agents du public et du privé. Maintenant où on parle donc, maintenant où d'abord, est-ce qu'il était nécessaire qu'on puisse ouvrir cela à la Caisse nationale de sécurité, à la Caisse nationale de sécurité sociale pour que les deux puissent faire le travail, est-ce qu'il était nécessaire? Et puis ma deuxième question, voilà que nous sommes presque dans une logique de co-gestion. C'est-à-dire que et l'INAM et la Caisse nationale de sécurité travaillent sur le même dossier. Alors comment se fait-il qu'il faudrait nécessairement que certains soient avec l'INAM et que ceux qui étaient avec l'INAM étaient obligés donc de revenir vers la Caisse nationale de sécurité? Pourquoi véritablement, je ne vais pas dire de mélange, mais pourquoi aller donc dans cette distance du moment où on parle donc de la co-gestion?
Voilà. D'accord, monsieur Kakbo.
Oui, d'accord. Agent en détachement.
Donc, trois questions.
Oui,
agent
en
détachement. Est-il nécessaire?
Est-il nécessaire?
Donc, élargir et que la caisse se joint à l'INAM pour continuer le travail, ou est-ce que c'est l'INAM qui le faisait pas très bien? Et puis, la dernière, voilà quoi. Pourquoi co-gestion? Mais chacun gère son portefeuille, quoi, à part.
D'accord.
Ok. Pour les agents en détachement, il faut dire que l'État gère plusieurs types de personnel. Il y a ceux qui sont fonctionnaires, que nous disons, et qui relèvent de la Caisse de retraite du Togo. Donc, c'est des agents publics, au sens strict du terme. Maintenant, il y a d'autres fonctionnaires à qui l'État a donné la possibilité de travailler dans d'autres structures. Par exemple, que ce soit une structure privée, que ce soit une structure publique, autonome, qui a besoin d'une compétence et qui trouve au niveau de l'État, il peut demander à ce que l'État lui envoie un agent. Donc cet agent continue par évoluer au niveau de la Caisse de retraite du Togo, mais n'est plus payé par l'État, mais est payé par la nouvelle structure là où il travaille. Donc ces agents-là aussi, étant donné que même quand ils vont passer à la retraite, c'est la CRT qui va les payer et qui va prélever leur cotisation pour l'assurance maladie. Donc l'État a décidé que ces agents-là restent à l'INAM pour qu'ils n'aient pas, au moment de la retraite, à basculer encore vers un autre organisme gestionnaire. Donc ce sont ces agents qu'on appelle agents en détachement. Alors pourquoi est-il nécessaire d'associer, je vais dire, la CNSS à la gestion de l'assurance maladie? Je vais dire que, au fait, ces autres cibles que INAM gérait depuis 2012, c'était strictement les agents publics. Quand nous voyons les tests qui ont mis en place l'INAM ne gérait que les agents publics. Donc, en 2012, on n'associait pas le privé. Il n'y avait pas les artisans, il n'y avait pas les agriculteurs. Donc, je crois que c'est vers 2015-2016 que INAM a fait des pilotes. Voilà. Un pilote, c'est une expérience. On voudrait voir, est-ce qu'on peut associer le privé? Est-ce qu'on peut associer des agriculteurs? Est-ce qu'on peut associer des artisans? Comment le système va se comporter? Est-ce que le système sera toujours en équilibre? Donc, ces autres cibles-là, c'était des expériences, des pilotes que l'INAM a commencé par faire. Et c'est, on fait un pilote et après le pilote, on fait le bilan et on présente l'État. Voilà. Voilà ce que cela a donné. Donc on peut faire ceci ou faire cela. Et l'État prend sa décision. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Maintenant, l'autre chose, c'est que système pour gérer l'assurance maladie, oui, c'est une option de dire que INAM continue, pas prendre en charge tout le monde, ne fait que l'extension. Mais ça, il ne faut pas oublier qu'avant l'INAM, il y avait la CNSS qui intervenait dans la protection sociale. Et qui couvrait déjà, dont ces tests leur donnaient la possibilité de couvrir déjà d'autres cibles. Alors, pour éviter qu'il y ait un peu de confusion, on a souhaité que ceux qui sont déjà gérés là-bas, est-ce que c'est mieux qu'ils continuent pas à aller là-bas? Comme ça, l'employeur, à la fin du mois, ne va pas faire un état pour INAM à part, faire un état pour la CNSS. Mais il fait une cotisation unique et cela englobe les prestations antérieures de la CNSS, la retraite, prestations familiales ou choses, et englobe en même temps l'assurance maladie. Donc c'est l'option que l'État a choisi de garder chacun dans l'organisme qui le gérait déjà.
Alors pour, sur ce point, quel est l'intérêt alors du citoyen ou du bénéficiaire dans cette option que l'État a choisie?
L'intérêt, bon, moi je dirais l'intérêt premièrement, c'est que au niveau de la cotisation, on n'est pas fait des fichiers, on n'est pas basculé d'un organisme à l'autre. Donc je sais que je bénéficie de la CNS pour la protection sociale et tous les risques en même temps. Et si je suis à l'INAM aussi, l'employeur sait que mon personnel est à l'INAM, c'est tout. Au fait aussi, ça fait partie de l'unicité de caisse que je disais au début, que l'État a voulu que les caisses soient uniques pour chaque employeur. Je suis ici avec mon personnel, je reste là-bas. Aussi, nous allons à l'échelle, et l'échelle, ça fait 8 millions au moins de Togolais aujourd'hui. Donc l'État a voulu une gestion beaucoup plus saine et de qualité. Il a voulu expérimenter le fait de confier les 8 millions. Aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement les 500 000 assurés de l'INAM et les ceux qui sont à la CNSS. L'ambition, c'est de couvrir toute la population. Donc, la première expérience de l'État en allant vers l'assurance maladie universelle, c'est de permettre à deux organismes d'avoir des cibles maîtrisables pour peut-être une gestion. C'est peut-être que avec cette expérience, on avait commencé par l'INAM, ça fait 10 ans, 12 ans, avant de passer à l'extension. Qui dit que peut-être après une expérience de 5 ans, l'État fera le bilan de deux organismes gestionnaires et peut-être on verra s'il faut maintenir ce système ou s'il faut fondre les deux et avoir une autre. Donc, je vais dire que c'est une expérience pour faire l'assurance maladie à ses débuts.
D'accord. Alors, Dr Mba, est-ce qu'un assuré INAM actuel doit avoir une nouvelle carte avant d'être pris en charge ou peut-il alors continuer d'utiliser celle qu'il a à sa possession?
Un assuré INAM n'a plus besoin d'avoir une nouvelle carte aujourd'hui pour avoir accès aux soins. Nous avons actuellement deux cartes en circulation. Il y a l'ancienne carte et la nouvelle carte. Les deux cartes se mènent concomitamment. Et progressivement, l'ancienne carte va disparaître et fera place à la nouvelle carte. Donc les deux cartes sont valables pour avoir accès aux prestations. Donc, un assuré n'a pas besoin d'aller remplacer l'ancienne carte, nécessairement pas la nouvelle carte, avant d'aller aux prestations.
D'accord. Donc, avec la carte INAM que nous avions, on peut facilement aller aussi en consultation. Sivesque?
Non, ma question, c'était, M. Akako, c'est bien cela. Il disait, en fait, que l'option pour l'État, c'est que ceux qui sont à l'INAM restent à l'INAM, et ceux qui sont au niveau donc, de la Caisse nationale de sécurité sociale restent également à ce niveau. C'était ça?
Non, je précise. Ceux qui déjà pour leur sécurité sociale contribuent à la CNSS restent là-bas. Oui. Ceux qui le font au niveau de l'État, parce que quand je dis l'État, c'est l'INAM, c'est la CRT. Oui. Ceux qui sont en activité et que leur cotisation de sécurité sociale et la CRT sont toujours au niveau de l'État, du trésor public. L'État veut qu'ils restent là-bas. Parce que la cotisation pour l'assurance maladie n'est qu'une partie. Il y a la retraite et les autres choses. Donc tout est prélevé à la source. Directement. Donc l'État a voulu que chacun reste, ceux qui sont avec lui, restent avec lui. Et ceux qui sont avec la CNSS, restent avec la CNSS pour débuter cette nouvelle expérience.
En fait, je voulais revenir sur le fait qu'il y a un moratoire de 3 mois qui a été donné à certains de basculer de l'INAM vers la CNSS. Donc pourquoi est-ce que ceux qui étaient obligés de basculer ne soient pas peut-être, qu'on leur demande plutôt pas de rester là où ils étaient et de continuer avec.
D'accord. Monsieur Kakpo, puisqu'il y a le communiqué quand même qui a circulé entre temps.
Oui, oui. Qui, véritablement, pour nous les journalistes aussi, on n'a pas su l'expliquer.
Oui, voilà. Exactement. Il y a eu des confusions. C'est pour cela même que nous faisons cette communication pour que les gens comprennent. C'est une option. L'État pourrait dire, OK, ceux qui étaient dans les pilotes que l'INAM a commencé restent à l'INAM. Mais l'État n'a pas fait cette option-là. Je ne vais pas donner plus d'explications que ça. L'État a souhaité, ça ce que je sais, c'est que l'État a souhaité.
C'est le souhait de l'État.
Le souhait de l'État, c'est de faire cette expérience que ceux que je gère déjà, qui sont mes agents, je préfère les garder. Et ceux qui sont déjà de l'autre côté, on les garde là-bas pour ne pas amener une confusion. Maintenant, après, on verra si on va peut-être mettre tout ensemble ou si on va garder ce système.
D'accord, docteur Mba, est-ce que si vous avez un contact pour s'informer alors sur l'INAM, quels sont ces contacts et qu'est-ce que vous pouvez dire également pour clôturer cet entretien?
Oui, les contacts pour avoir les informations relatives à l'INAM, nous avons notre centre d'appel le 8220, notre numéro WhatsApp le 98 91 52 107. Je répète, 98 91 52 107. Et ce numéro WhatsApp est animé par notre chargé de communication, M. Tellier.
Que nous saluons au passage.
Et nous avons notre standard, le 22-53-20-01. 22-53-20-01. Et je dirais à la fin que l'assurance maladie universelle est en marche et que nous, Togolais, nous devons faire confiance à cette assurance pour notre prise en charge, pour surtout améliorer la qualité des soins et améliorer notre vie quotidienne.
D'accord, Monsieur Kapo.
Oui, je voudrais ajouter aussi que la CNS a un numéro vert qu'on peut appeler pour s'informer. C'est 83-23, le numéro vert de la CNSS. Alors, ce que je peux dire, j'aurais aimé dire beaucoup de choses.
Mais le temps ne nous suffit pas.
La première, c'est que l'assurance maladie universelle, c'est INAM plus CNSS. Nos concitoyens ont l'impression qu'il y a l'AMU à part et il y a INAM à part. Et j'ai vu même une inscription comme ça dans une pharmacie. Non, l'assurance maladie universelle est unique au Togo, gérée par deux structures. Il n'y a pas une carte AMU, il n'y a pas une carte INAM, il n'y a pas une carte CNSS, en réalité. Il y a eu confusion parce que déjà avant les nouvelles dispositions de l'assurance maladie universelle, INAM a commencé un projet de remplacement de ces cartes de 2021-2012 et 2011-2012. Donc c'est cela qui a amené peut-être une confusion. Donc comme l'a dit le docteur, toutes les cartes INAM, anciennes comme nouvelles, sont valables pour aller aux soins. Je voudrais pour terminer prier nos prestataires de soins que toutes les cartes INAM sont valables. Et nous avons une application PrestaPlus qui est installée à tous nos prestataires conventionnés et nous avons ajouté un onglet bénéficiaire où ils peuvent vérifier si un assuré est encore à l'INAM ou pas.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Akapo Koutonet Komlan. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chef service affiliation à l'INAM. Docteur Mba Kofi, merci aussi à vous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur délégation régionale Lomé Commune. Vous pouvez rester avec nous pour déjà la suite alors de cette émission, puisque déjà à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs, à vos compatriotes qui sont à l'écoute et qui vous poseront certainement des questions sur justement l'AMU. Alors, autre invité ce matin, c'est madame ou docteur Ahama Toutonou. Madame, bonjour.
Bonjour. Alors, Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
D'accord. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources forestières, justement au ministère de l'Environnement et des ressources forestières. Nous savons très bien que le 1er juin de chaque année, c'est en quelque sorte une date très importante pour nous, les Togolais. C'est la journée de l'arbre, comme nous aimons l'appeler d'habitude. Et le 1er juin, les Togolais plantent alors, depuis 1977. Et pourquoi les autorités d'ailleurs l'ont décrété journée de l'arbre, madame?
Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour l'invitation tout d'abord et à travers vous, tous les hommes des médias et toute la population togolaise pour l'accompagnement dans le cadre de notre processus de développement forestier au Togo. Pour répondre à votre question, le 1er juin de cette année, c'est le samedi prochain, Et cette journée a été décrétée journée de l'arbre depuis 1977 par le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema. Et cette journée nous rappelle la situation amère que notre pays a connue dans les années 1970, plus précisément entre 1972 et 1976, où le pays a connu une forte sécheresse à l'instar des autres états de la sous-région. Donc c'est suite à cette sécheresse chronique que le père de la nation a dédié le 1er juin 2017 à une journée de l'arbre. Et depuis ce temps-là, cette journée est célébrée chaque année. Quel est l'objectif de cette journée? C'est de pouvoir amener tous les Togolais à pouvoir planter les arbres, à les entretenir pour pouvoir lutter contre la sécheresse et conserver nos ressources naturelles et promouvoir le développement durable au niveau du pays.
Il est dit même d'ailleurs que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est ce qui est dit souvent. Alors, à partir de 2021, c'est devenu une campagne nationale de reboisement. Et pourquoi ce changement de nom?
Vraiment, à partir de 2021, comme vous venez de le dire, nous parlons de campagne de reboisement au lieu de premier de journée de l'arbre. Et qu'est-ce qui explique cette situation? C'est que par le passé, le 1er juin, tous les Togolais sont appelés et allés planter des arbres. Donc, après la mise en tête des plans, on voit que les gens n'ont pas l'habitude d'être impliqués suffisamment pour la suite de la campagne. Et aussi, au-delà de ça, il a été constaté que le pays est confronté à de nombreux problèmes environnementaux, comme par exemple la déforestation et les changements climatiques. Donc, face à cette situation, il faut trouver des solutions qu'il faut. C'est par rapport à ça que les plus hautes autorités de ce pays, de notre pays, le Togo, ont pris la décision de se fixer des objectifs ambitieux pour pouvoir faire face aux problèmes de déforestation. Tout d'abord, à partir de la feuille de route, la feuille de route gouvernementale 2025, où il y a un objectif qui a été fixé et qui assigne la responsabilité au ministère de l'Environnement de pouvoir étendre le taux de couverture forestière à 25% à l'horizon 2025. Donc, après l'adoption de cette feuille de route, pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de cet objectif, il a été lancé le 12 mai 2021, l'ambition décennale de reboisement d'un milliard de plants à l'horizon 2030. Cette initiative qui est portée par le chef de l'État lui-même. Donc nous sommes dans cette dynamique et pour réaliser cette ambition, il faudrait prendre des mesures audacieuses pour pouvoir le faire. C'est pour ça que si nous nous arrêtons seulement au 1er juin, et que la population n'est pas impliquée pour la suite de la campagne, nous ne pourrons pas atteindre cette ambition. C'est pour ça qu'il y a une grande sensibilisation autour de la campagne de reboisement pour amener toutes les couches socio-professionnelles, tous les acteurs, pour pouvoir contribuer à la mise en terre des plants, les entretenir, les protéger, pour pouvoir réaliser cette ambition. Si nous voulons aller au-delà des engagements au niveau national, il y a aussi des engagements au niveau international. Je voulais donner un seul exemple. Je voulais parler de l'initiative de restauration des paysages forestiers. Cette initiative qui a été prise au niveau régional de l'Afrique, où il faut reboiser et bien restaurer les paysages forestiers. Et au niveau du Togo, le Togo a pris l'engagement de reboiser à l'horizon 2030 1,4 million de paysages forestiers dégradés. Donc vous comprenez que nous avons tant d'engagements aussi bien au niveau national qu'international que nous devons respecter.
C'est très important. Alors pour ce qui concerne le reboisement du milliard de plants d'ici 2030, c'est une ambition bien sûr, vous l'avez dit tout de suite. Cette ambition à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore à l'heure en 2030, nous sommes en 2024. Dites-moi madame, quel est le bilan sur les 1 milliard, combien de plants ont-ils été plantés déjà?
Ok, merci beaucoup. Nous sommes actuellement à la quatrième campagne après le lancement de l'ambition décennale de reboisement d'un milliard de plants à l'horizon 2030. Et en ce qui concerne le bilan, nous allons dire qu'un effort a été fait. Un effort a été fait parce que par le passé, et c'est difficilement que nous dépassons le cap de 2000 hectares pour le reboisement, mais depuis que l'ambition a été lancée, nous avons constaté une progression continue de nos efforts de reboisement. Donc nous sommes passés de 4500 hectares de superficie reboisée en 2021 et à ce jour, nous dépassons le cap de 10 000 hectares. Donc pour les plants mis à terre aussi, il y a une progression. De 3 300 000 plants mis à terre en 2021, cette année, nous sommes au-delà de 10 millions de plants qui sont mis en terre. Donc, je peux dire que depuis que l'ambition a été lancée en 2021, en termes de superficie reboisée, nous sommes au-delà de 22 000 hectares reboisés et au-delà de 15 600 000 plants qui ont été mis en terre.
Qu'est-ce que ça veut dire que déjà d'ici 2030, on pourra atteindre notre ambition?
Vous voyez que les chiffres que je viens de donner sont très loin de l'ambition. Parce que si nous prenons l'ambition d'un milliard de plants à l'horizon 2030, normalement, nous devons reboiser 100 millions de plants chaque année sur une superficie de 67 000 hectares. Donc, vous comprenez que nous sommes très loin de l'ambition, quand bien même des efforts louables ont été déployés. Donc, c'est l'occasion pour chacun de nous, pour tous les Togolais, de jouer sa partition. Donc, nous avons encore du temps. Nous avons encore... nous devons avoir la volonté pour pouvoir contribuer à la réalisation de cette ambition. Si chacun, chaque citoyen prend l'engagement de faire une contribution, je crois que ça peut aller.
Mais madame, est-ce que déjà, quand vous dites que les chiffres que vous avez présentés sont un peu loin de l'ambition, et à l'heure actuelle, est-ce que ça veut dire que l'ambition a été de trop?
Non. L'ambition n'a pas été de trop. Nous voyons que l'ambition est réaliste. C'est une question de volonté.
D'accord.
S'il y a la volonté, chaque citoyen contribue, joue sa partition, je crois que nous pouvons y arriver. Parce que pour pouvoir réaliser l'ambition, il faut avoir la disponibilité, il faut relever un certain nombre de défis.
Tout à fait.
Donc les dispositions sont prises pour relever ces défis-là. Faut la disponibilité foncière.
Tout à fait.
La disponibilité foncière, moi, c'est un grand défi. Et au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, un effort est fait pour recenser chaque année les terres disponibles pour pouvoir assurer et réaliser cette ambition. Par exemple, à l'heure où nous sommes, nous avons une disponibilité de terres de plus de 125 000 hectares pour cette année, ce qui veut dire que, du moins pour l'année 2024, nous n'avons pas de problème de terre, puisqu'il faut annuellement 67 000 hectares de terre pour le reboisement. Si nous prenons, il y a aussi pour le défi relatif à la disponibilité des plants.
Tout à fait.
La disponibilité des plants, normalement, selon l'ambition, nous avons besoin de 100 millions de plants à reboiser chaque année. Mais ce qui est disponible aujourd'hui, nous sommes à 21 millions. Nous sommes encore loin de l'ambition. Mais si toutes les conditions sont réunies, je crois que nous pouvons aller à atteindre cette ambition de produire les 100 millions de plants. Et quel est le facteur limitant? C'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers parce que pour reboiser les 100 millions de plants chaque année, il nous faut 40 milliards. Mais ce qui a été mobilisé, par exemple, cette année, tout autour de 2 milliards 800 millions. Donc, vous voyez qu'il faudrait les moyens nécessaires. S'il y a les moyens, tout, on aura des résultats.
D'accord. Alors, mon confrère Abbas a une question pour vous. Abbas, bonjour.
Bonjour. Oui, je pense que par rapport à la question, je crois que l'ambition de planter 2 milliards se prend pas jusqu'en 2030.
1 milliard.
1 milliard.
A été du tout. Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a les moyens qui manquent. Et puis, la disponibilité des hectares, des sols, du foncier à planter. Est-ce que le gouvernement avait pris ça en compte pour voir si d'ici là nous aurons tel moyen financier? Ou au même moment, on a aussi tel nombre d'hectares à planter par an. Est-ce que tous ces calculs avaient été faits pour qu'on dise qu'on puisse aller sur ça?
D'accord. Madame, vous avez écouté la question alors de notre confrère, de mon confrère Abbas.
Si vous voulez, je peux juste ajouter comme ça les balais. C'est la même logique, puisque
oui.
Elle parlait donc de volonté. J'aimerais savoir la volonté se situe à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau des partenaires financiers techniques qui devaient normalement assister l'État togolais, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas de volonté, c'est ce qui fait que vous n'avez pas de moyens financiers, ou c'est au niveau donc, du peuple, du bas peuple, il n'y a pas d'engouement hein, par rapport donc, au projet bon, voilà quoi.
D'accord, merci Sylvestre. Madame, docteur Ama, à tout en nous.
Oui, merci beaucoup. Je crois que par rapport à l'ambition, ce n'est pas de trop. Parce que si je veux atteindre un objectif, il faudrait que je mette les moyens qu'il faut. Et si l'ambition a été lancée, ce n'est pas seulement l'apanage du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières seules. Il faudrait que tous les acteurs jouent leur partition. Donc, vous allez voir que d'ores et déjà, pour nos activités de reboisement, il y a d'autres acteurs qui sont fortement impliqués depuis les ministères sectoriels, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers. Chacun apporte sa contribution. Et par rapport à l'engouement, et je vais dire que pour faire une comparaison avec le passé, ce qui se passait auparavant, il y a une forte engouement à ce qui concerne le reboisement dans les trois dernières années. Parce qu'il y a des gens qui se volontairement font le projet de reboisement. Les gens qui vous approchent, je veux reboiser. Les gens même qui sont prêts à mettre à disposition leur terre pour le reboisement. C'est pour ça que nous sommes dans le sillage de sensibilisation pour amener les uns et les autres à contribuer, bien à adhérer à la vision du chef de l'État par rapport à cette ambition. Donc, il faudrait qu'on renforce encore la sensibilisation pour que les gens connaissent l'importance de l'ambition et aussi le bien fondé de ce projet de reboisement. Quel est le bienfait pour les arbres que nous voulons mettre en terre? Quels sont les bienfaits pour les forêts que nous créons? Je crois qu'avec ça, il y a une forte engouement maintenant. Les gens qui nous approchent, mais ce n'était pas le cas par le passé. Donc progressivement, je crois qu'il y aura plus d'engouement et que les gens, il y aura beaucoup plus d'initiatives de reboisement pour atteindre l'ambition. Quand nous parlons de reboisement, ce n'est pas seulement chercher une grande superficie et aller créer des plantations. Il y a d'autres techniques de reboisement, par exemple l'agroforesterie, ou dans nos champs, les gens qui ont des champs, des paysans, ils peuvent mettre les plantes fertilitaires, tout ça là, c'est comptabilisé au niveau de notre rapportage pour pouvoir situer bien, apprécier l'effort que nous sommes en train de faire. Par rapport à la volonté dont parle notre confrère, c'est à quel niveau cette volonté se situe. Je crois que la volonté se situe au niveau de tous les acteurs. Parce que le gouvernement a exprimé déjà sa volonté. Il y a la volonté politique. Comme je le disais tantôt, il faut qu'au niveau des autres acteurs aussi, qu'il y ait cette volonté de contribuer à l'atteinte de cet objectif-là. Donc la volonté, c'est à tous les niveaux, au niveau des bailleurs, les PTF, au niveau des paysans, au niveau des groupes organisés, les associations de femmes, de jeunes, la société civile. Et on le fait déjà, mais c'est qu'on renforce encore l'effort pour pouvoir booster nos scores de reboisement.
Madame, il y a un constat aussi qui est fait, c'est les pépiniéristes qui se plaignent alors de la mévente, la mévente surtout au niveau des plants. Comment comptez-vous alors les soutenir, puisque c'est aussi des investisseurs?
Nous sommes conscients de cette situation de mévente de plants au niveau des pépiniéristes. Parce que quand je citais les défis tout de suite, j'avais cité le défi de disponibilité des plants. Si nous avons la terre, les acteurs sont disponibles, nous avons les moyens. Si nous n'avons pas les plants, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Mais il est vrai, sur le terrain, nous l'avons constaté, il y a cette mévente au niveau des pépiniéristes et c'est un problème qui nous tient à cœur et nous avons déjà à plusieurs reprises échanger avec ces pépiniéristes pour leur donner les orientations par rapport à cette situation. Mais au niveau du gouvernement ou bien du ministère de l'Environnement, nous faisons un grand effort. Tout ce qui est projet de reboisement au niveau du ministère, que ce soit sur le budget d'investissement d'équipement, que ce soit sur les projets portés par les acteurs du ministère, tout ce qui est reboisement, nous faisons l'acquisition des plans auprès de ces pépiniéristes privés. Mais quel est le problème? C'est que les autres acteurs, normalement, ils devraient encourager ces pépiniéristes qui sont nos frères, nos sœurs, qui ont fait de cette activité-là leur source de revenus. Il faudrait que nous achetions ces plants-là à leur niveau pour que ça ne reste pas sous leurs bras. Et il y a cette mévente que nous constatons aujourd'hui.
D'accord. Alors, madame, c'est vrai que quand on plante un plant ou on met un plant en terre, il faut de l'entretien avant que ce plant ne grandisse. Oui, mais le constat aujourd'hui, c'est quoi la stratégie que vous mettez en place pour que, du moins, ce soit les feux de brousse alors ne détruisent pas ces plants ou encore la transhumance qui est un phénomène également qui arrive à éradiquer ces plants?
Oui, si... Et l'essentiel, ce n'est pas de mettre en terre les plants. Si nous mettons les plants sans prendre des dispositions pour les entretenir et les protéger, donc nous n'avons rien fait. Donc, si je veux reboiser, déjà quand j'ai en idée le projet de reboisement, il faudrait que je m'assure que j'ai les moyens nécessaires pour faire l'entretien et assurer la protection des plants après la mise en terre. Mais le plus souvent, on constate qu'il y a certains acteurs et ils n'arrivent pas à faire cette prévision et après on se rend compte que après la mise en terre, et les plants restent sans entretien et que les résultats ne sont pas obtenus. Maintenant, au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, nous prenons des dispositions pour tous ces aspects que je viens de relever. La mise en terre, l'entretien et la protection, et les moyens sont affectés pour ça. Et pour s'assurer que ce qui est dit ou planifié est réellement réalisé sur le terrain, il y a des missions de suivi qui sont organisées. Au niveau du terrain, il y a les directeurs préfectoraux, il y a les directeurs régionaux, et au niveau central, il y a aussi la direction des ressources et la direction des ressources forestières qui fait le suivi et tout ceci sous la supervision du cabinet du ministre.
D'accord.
Donc nous encourageons tous les acteurs et puis du reboisement de penser à l'entretien des plants, à leur protection quand ils ont leur projet de reboisement.
D'accord. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos questions. Je vous prierai alors de rester avec nous, hein, puisque déjà à midi, nous allons donner justement la parole à nos auditeurs. Ils vont vous poser des questions, certainement. Alors, quand on parle alors de l'environnement ou de reboisement, on parle de l'environnement. Et Sylvestre, à la une, on va revenir un peu sur dans nos journaux, bien sûr, et parler alors des articles, hein, ou du moins des sujets débattus, par, ou du moins des sujets évoqués par les journaux. Non, Votre journal La Machette, hein, titre aujourd'hui à la une, justement, Lomé dans l'eau, quand la réalité rattrape le président. Et vous citez le chef de l'État, Faure Gnassingbé, vous le citez, je reprends même d'ailleurs cette citation lors du chef de l'État. Pour ceux qui connaissent Lomé, chaque année, à chaque saison des pluies, il y a des sinistrés, des inondations, des victimes. Grâce à un programme de la Banque mondiale, on a construit de grosses canalisations et aujourd'hui, nous n'avons plus ces genres d'inondation à Lomé. C'est Faure Gnassingbé, décembre 2015 à Paris. C'est bien ça?
Oui, c'est bien cela. Nous avons juste repris un speech aussi, une déclaration du chef de l'État lorsqu'il était donc à Paris en marge de la COP21. Ou donc devant un parterre des partenaires techniques et financiers du pays, présentait un peu la situation donc du Togo, où il tentait donc de les rassurer. Depuis, il y a quand même des efforts qui ont été faits au Togo. Il y a eu des canalisations, de grosses canalisations qui ont été donc installées ou construites au Togo. Il y a des bassins donc, de rétention et tout. Et donc depuis, nous n'avons plus donc des inondations à Lomé, mais il a quand même ajouté un bémol en disant que nous en souffrons à l'intérieur du pays. Maintenant, voilà, c'est la déclaration donc, du président, et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc vous conviendrez avec moi que entre la déclaration du chef de l'État et ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que c'est deux choses diamétralement opposées.
Est-ce que là c'était juste une déclaration politique?
Non, écoutez, je ne saurais apprécier donc la déclaration du chef de l'État, ben, quoi que politique ou social ou socio-économique, ou je ne sais pas quel qualificatif on pourra quand même donner. Ce qui est dit, c'est que le chef de l'État a parlé, mais la réalité donc sur le territoire est tout autre, puisque vous avez vu donc les inondations que nous avons connues depuis
la pluie du samedi dernier.
Du 25 et malheureusement, nous ne sommes qu'au début. Malheureusement, c'est là où il faut craindre. Donc je ne vais pas dire le pipi, parce que je ne vais pas être dans de mauvaises augures. Donc il faut craindre pour les jours à venir, parce que nous ne sommes qu'au début de la saison de pluie. Mais regardez donc les inondations que nous avons à Lomé. Je vais observer, si vous avez quand même le temps, aller un peu à Watamé. Vous connaissez très bien le lieu.
Tout à fait, je connais bien Watamé.
Depuis la saison dernière, c'est-à-dire que la saison pluie, la saison donc de 2023, ceux qui sont donc dans cette localité donc du pays sont toujours dans l'eau. Ils ont toujours les pieds dans l'eau. Si bien qu'il y a même une école publique et un cours primaire public là qui a été le ministère a été contraint donc de
le délocaliser.
De localiser totalement. Et donc ils sont toujours dans l'eau. Donc ceux-là, ils étaient dans l'eau et avec 2024, ils continuent à être dans l'eau. Or nous ne sommes qu'au début. Allez un peu donc au niveau de l'Encouvie. Bon, je me suis un peu promené à Lomé pour voir, bon, parce que il faut dire donc les choses de telle sorte que nous les avons vues, quoi. Allez à l'Encouvie, juste après le château, vous verrez que c'est la désolation. C'est la désolation. Hein, je suis rentré même dans une. Bon, la dame m'a permis quand même donc de visiter son salon. Je vous dis, l'eau a dépassé le niveau donc de la crise.
Et elle continue de vivre là?
Non, elles étaient obligées donc d'évacuer le lieu. Bon, elles étaient en train donc de quitter les lieux, tout ça, vous voyez. Donc, pourquoi je dis qu'il faut véritablement que ce problème-là soit un débat national, qu'on puisse réfléchir à comment donc gérer l'inondation à Lomé.
En 2019,
nous avons même enregistré des morts à Venou ici, où un mur a cédé, et donc la famille a été surprise par l'eau qui a emporté malheureusement des enfants, des tout petits que nous avons enregistrés.
C'est pas sur ce point. Justement, le souci aussi, c'est la canalisation dont parlait même d'ailleurs le chef de l'État, avec même les bassins de rétention. On a constaté même avec cette inondation que les bassins ont lâché de telle enseigne que on a vu à Donillon, c'est toute une inondation, et avec un autre système, avec le système de pompage qu'on a pu maintenant faire pomper l'eau.
Oui, malheureusement, je vais peut-être vous choquer, mais les bassins deviennent aujourd'hui les problèmes véritablement donc de nos villes. Regardez un peu au niveau du bassin d'Aïdogomé. Je fais observer que moi j'ai fréquenté Aïdogomé en 92, où quand on parlait de la Djouali, il n'y avait pas ce bassin-là. Mais c'est avec la construction de ce bassin que la clinique bien-être, tous ceux qui sont là aujourd'hui, sont contents donc de quitter leur lieu parce que le bassin déborde et ils sont visités par l'eau. Or, ce n'était pas le cas il y a peut-être une dizaine ou quinzaine d'années. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est la confession des bassins. Vous parlez donc de Délion.
Vous voyez le carrefour de Lyon. C'est-à-dire c'est ce bassin-là qui devient maintenant le problème donc, de ceux qui étaient là avant la construction du bassin. Ça veut dire qu'on doit repenser autrement les choses. Je crois qu'il faudrait, c'est pourquoi je disais qu'il faut poser le problème donc, à un niveau un peu plus national. J'ai eu dit, hein, à condition que les urbanistes puissent quand même vérifier, il y a quand même des buses. Il y a des buses qui ont été prévues donc, à Lomé au niveau donc, de Nyekonakwe, au niveau donc, de S3G, qui permettent à ce que, à chaque fois qu'il y a pluie à Lomé, ça passe par ces buses-là et directement qui descend et qui va directement dans la mer. Mais ces buses-là, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Comment se fait-il que... Bon, est-ce qu'ils ont été abandonnés? Pourquoi? Parce que selon donc, nos informations, c'est avec la construction donc, des nouvelles routes à Lomé et tout ça qui a fait qu'on a fait obstruction à ces buses-là. Alors si c'est le cas, si réellement il y a ces buses, donc le mieux c'est de repenser cela et qu'on puisse les utiliser.
D'accord, donc, merci. Merci beaucoup, Sylvestre Abbas. Rebonjour. Alors, c'est vrai, je sais que vous voulez vraiment vous prononcer alors sur le sujet, mais je suis intéressé aussi par un autre sujet hein, sur lequel vous êtes revenu à la une de votre journal Le Moyen Libéré. Vous écrivez à la une du journal 6 mai 2024, 5 mai 2025, le timing parfait entre la date de la promulgation et le délai de mise en place alors des nouvelles institutions. Et vous écrivez et aussi à la suite, alors de cela, Faure Gnassingbé achèvera son mandat en tant que chef d'État sans un jour de plus.
Oui, effectivement, c'est un constat que nous avons fait parce que la constitution nouvelle a été promulguée le 6 mai 2024. Et lorsque vous faites un calcul, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, élu en 2020, a prêté serment le 4 mai 2020. Son mandat doit courir jusqu'au 3 mai 2025. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution qui a été rendue publique, c'est que les articles 96 et 95 nous disent qu'il faut 12 mois de transition. Et durant les 12 mois de transition, on mettra en place des institutions.
Ce qui veut dire que nous sommes dans la phase transitoire.
C'est dans la phase transitoire que nous sommes. Donc, la phase transitoire va durer 12 mois. Et lorsque vous faites le compte, c'est que les 12 mois tombent juste à la fin du mandat présidentiel élu en 2020 et en 2025. Donc, nous avons fait ce compte-là. On dit que le chef de l'État, ayant prêté serment le 4 mai, 2020, il finira son mandat le 3 mai 2020. Il dit qu'il n'aura pas encore un autre jour de plus pour continuer, pour dire qu'il a de la dépatrie. À ce moment, on aurait déjà installé toutes les institutions. Le Parlement est déjà installé. Il reste le Sénat. Et c'est le Sénat qui viendra maintenant s'ajouter au Parlement.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse et là, et toutes nos excuses hein, pour en quelque sorte l'arrêt momentané alors de cette émission puisque nous avons été coupés. On connaît justement bien la cause. Abbas, vous l'avez dit, on connaît bien la cause parce que nous avons été coupés hein, par la suite. Et donc, Abbas, vous étiez en train de parler alors de ce mandat même d'ailleurs du président de la République, bien sûr. Conformément à la nouvelle disposition de la Constitution.
Ouais, je disais que jusqu'à ce moment, dans les 12 mois, il y aura installation de toutes les institutions. Je parlais du Parlement, il s'agit de l'Assemblée nationale qui a été déjà installée. Et il reste maintenant à installer le Sénat. Ce sont les deux chambres du Parlement qui vont élire et le président de la République et le président du Conseil des ministres. Donc, à ce moment, c'est ça, nous avons dit que déjà, dans les 12 mois qui vont finir, le chef de l'État va finir son mandat constitutionnel.
Mais là, sur ce point, c'est vrai que moi j'ai écouté un entretien hein, du ministre Bawara tout récemment, dans cette semaine bien sûr, où il disait que c'est déjà automatique même d'ailleurs que le chef de l'État que le chef de l'État soit même d'ailleurs le président du Conseil.
Il faut lever l'équivoque, c'est vrai.
Voilà.
Le ministre Bawara c'est un politique, il a parlé en tant que politique. Mais lorsque vous prenez les dispositions de la nouvelle constitution, la cinquième, c'est-à-dire de la cinquième république, vous prenez l'article 45. L'article 47 dit, c'est vrai que aujourd'hui, le chef de l'État togolais actuel, M. Faure Gnassingbé, est le président donc, du parti majoritaire. Donc, d'office, automatiquement, il est donc le président
du conseil des ministres. Justement.
Mais il y a une procédure. C'est-à-dire que il revient donc au parti majoritaire de notifier cela donc au bureau de l'Assemblée nationale. Du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale notifie, dit cela donc en plénière, en session plénière. De la session plénière, on saisit la Cour constitutionnelle. Et donc c'est devant la Cour constitutionnelle qu'il va prêter serment. Vous voyez, donc il y a toute une procédure. Mmh. Maintenant, nous n'avons pas encore donc le bureau de la Assemblée nationale qui est installé, parce que c'est un bureau d'âge qui fonctionne aujourd'hui. Ils ont eu une période de 15 jours pour installer le bureau définitif. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement déclencher le processus. Mais c'est vrai après l'installation, pour le président, on peut déclencher même sans. Puisque c'est les deux chambres qui vont élire donc le président de la République. Ça, c'est le président de la République. La désignation du président du Conseil, c'est le parti majoritaire qui notifie cela au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau informe donc les députés en session plénière et saisit la Cour constitutionnelle. Et c'est devant la Cour constitutionnelle que le président du Conseil des ministres va prêter serment.
D'accord.
Pour l'instant, nous ne sommes pas dans ce cadre de sécurité. Donc, il y a quelques articles qui circulent et qui prêtent confusion que le président de la République est le président du Conseil.
Alors, je pense qu'il nous faut un travail de pédagogie. On reviendra là-dessus, coup sûr. Alors, chers confrères, nous allons maintenant marquer une pause et puisque nous allons donner la parole aussi à nos auditeurs qui auront certainement alors des questions à nous poser. Tout de suite, nous marquons la pause.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Nous sommes toujours avec Monsieur Akakpo Koutonet-Komlan, chef service d'affiliation à l'INAM et aussi Docteur Romba Kofi, qui est coordonnateur délégation régionale Lomé commune à INAM, bien sûr, et Madame Ama Atutonu, Docteur Ama Atutonu, qui est directrice alors des ressources forestières et aussi avec nos confrères journalistes. Et déjà 22-21-33-74, premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour Didier, comment tu vas?
Bonjour, comment ça va? Bonjour Monsieur Abasso Isaka. Oui, mais moi je voulais poser une seule question, c'est sur le politique, parce que tout ce que a discuté INAM et tout là est tributaire de la mauvaise gestion de notre pays. Donc tout ce qui est la conséquence, c'est les conséquences, ça. Donc il faut qu'on s'attaque aux causes. Monsieur Abbas, vous nous avez rassuré dans cette même mission que la loi n'est pas écrite pour quelqu'un, que ce n'est pas pour fort ou pour qu'on écrit la loi. Maintenant, les buts sont atteints sur celui qui sera le premier président du Conseil. Est-ce qu'en tant que je peux me rassurer que le titre n'est pas fait au président? Parce que moi, je suis fatigué dans ma tête, dans tout. Chaque fois, je mets là mes enfants, mes grands-enfants vont écouter le même nom. Au moins, ça aussi, c'est un progrès. Une fois qu'on aura les têtes aérées, on pourrait consacrer notre développement pour ce pays.
Merci beaucoup Didier pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse lors de ce mercredi. Allô? Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Votre nom c'est Mohamed. Oui, Mohamed, allez-y. Oui. Oui, allez-y rapidement, Mohamed.
L'INAM, ils ont enlevé tous les produits de la et ils ont produits de l'INAM. Pourquoi?
D'accord. Mohamed, je pense que c'est ça la question. Je vous ai compris, docteur Mba aussi vous a compris. Allô? Oui, comment vous allez? Allô? Allô? Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'y a pas de retour. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22-21-33-114-91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse lors de ce mercredi. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Allô?
Ah, décidément, il n'y a pas de retour. Moi, je vous écoute bien. Allô? Bonjour, comment vous allez?
Bonjour,
Monsieur Léopold. Oui, il y a votre radio à côté de vous qui fait un peu de bruit, s'il vous plaît, diminuez son volume.
Oui, allô.
Oui, Monsieur Léopold, vous nous appelez de quel quartier?
Je
vous appelle de allez-y.
Moi, j'aimerais poser la question pour vous dire à
nous.
Quand on prélève, ça fait du monde pour l'argent, mais ça fait 2 mois que j'ai déposé, j'ai fait un roulement et on m'a battu, mais depuis là, le cas ne sort pas. Mais nous, on est là, on est autant malade là, on dépense notre argent en plus. Mais on n'a pas d'argent même. Donc j'aimerais poser la question, est-ce que pour faire le vite que pour la carte nous sortir.
D'accord. Merci beaucoup, M. Léopold. 22 21 33 114 91 36 allô? 63 75. Allô? Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, notre ami n'a pas de retour. Et Michel, nous pouvons avoir encore un auditeur. Je pense que ce serait le dernier. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75 22 21 33 114 91 36 63 75 les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse lors de ce mercredi 22 21 33 114 allô. Non mais Mohamed, allez-y.
Oui, maintenant on sait quoi faire. Maintenant, pour l'inondation, avant 2 ans, là, il n'y avait même pas d'eau dedans. À un moment donné, on voit l'eau remplie. Il y a notre avis, c'est derrière moi, un de mes amis. L'eau ne reste jamais dedans. C'est la boue de plus seulement qui reste tout seulement dedans. C'est un mauvais travail d'artistes qui font les routes au bien, qui font les plans de bassin là.
D'accord.
Si vous voyez le bassin, c'est très grand, mais il n'y a même pas une goutte d'eau dedans.
Okay.
C'est pour qu'on voit l'eau là-bas.
Allô, Mohamed? Donc voilà, je pense que moi, c'est bon. Michel, on prend un autre auditeur, c'est le dernier cette fois-ci. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais participer, ça va.
Justement, votre nom c'est?
Ouais, c'est Dima Kofi.
Dima Kofi.
Ah oui.
Allez-y.
Merci, je vais parler à propos de l'inondation.
Mm.
Je me demande, depuis 1960, il y avait des bus, les bus allumés ici. Qui ne permet pas des inondations à l'eau même. Pourquoi ne pas continuer avec cette méthode des buses? Et maintenant on fait des petits carnivaux au bord des routes pour les nouvelles routes là, hein, pour dévier des eaux envers les habitations. Ce sont des buses, des grands buses au milieu des routes, c'est un exemple que je vais donner de Adido Gomé. En fait, sur la grande voie là, on fait une très grande buse au milieu de la route jusqu'à la plage et communiquer ça au fur et à mesure pour que cette eau pluvieuse là rentre dans les buses et fait une évacuation vers la mer. Et maintenant on dévie les carnivaux vers les habitations. Il y aura encore des inondations dans la ville de Lomé. Je n'arrive pas à comprendre nos ingénieurs qui font les constructions de la route au Togo. Au 21e siècle, on ne peut pas avoir des buses en pleine ville. C'est incroyable. Hein? Oh, je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dima. Dima, je pense que c'est la dernière. Et c'est notre dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission. Docteur Mba, vous avez été interpellé hein, par les auditeurs par rapport surtout, il y a Mohamed qui posait la question concernant les produits chers que vous avez retirés. Est-ce vrai?
Je salue Mohamed au passage. L'INAM n'a jamais retiré les produits chers de la liste. Plutôt, à partir du 1er avril 2024, cette liste a été révisée et des médicaments ont été encore ajoutés avec la revue même de leur prix par de remboursement. Je vous prends à témoin là, en consultant l'application PrestaPlus,
Là, j'ai cliqué sur un médicament, enfin, le saut par exemple pour traiter l'hépatite C. Le prix public est à 172 190. Le prix bas de remboursement est toujours à 172 190. La part INAM est à 137 752 et la part du bénéficiaire est à 34 438. Donc, nous remboursons tous les types de médicaments. Donc, INAM ne diminue pas les prix des médicaments.
D'accord. Ok. Monsieur Capo, il y a une autre question, c'est Léopold. Hein. Léopold qui dit qu'on prélève. Mais depuis là, il a introduit son dossier pour qu'il y ait sa carte, mais la carte ne sort toujours pas. Est-ce que vous pouvez vite faire pour que du moins s'il dispose sa carte? Il est toujours malade et voilà, et il fait tout à sa charge ou à ses frais.
Non, bon, ok. Au fait, ce qui se fait quand on dépose un nouveau dossier, il y a 2 semaines à 1 mois pour avoir la carte. Bon, maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand vous déposez le dossier, on vous donne une attestation provisoire de prise en charge. Je ne sais pas comment ça s'est fait, il n'a pas reçu l'attestation, mais s'il est dans le besoin, là, je l'invite simplement de se rapprocher de l'INAM. On lui fera l'attestation provisoire de prise en charge en attendant la délivrance de la carte. Donc aujourd'hui, c'est systématique. Quand vous déposez un dossier, on vous fait l'attestation et que vous utilisez en attendant que la carte ne sorte.
D'accord, et maintenant c'est clair. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Abbas, vous avez été interpellé par Didier, vous l'avez écouté? D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Ouais, allez-y.
Non, c'est pour dire que par rapport aux inondations, il faudrait que aussi le civisme suive le comportement des populations lorsque on a fait des caniveaux, savoir comment les entretenir. N'allez pas transformer ces caniveaux-là en découtoir. Lorsque on a vu ce qui se passe au niveau de Lyon, ils ont transformé 2 millions même en dépotoirs. Moi, je ne comprends pas. On cherche à faire circuler l'eau. Et derrière, il y a des gens qui vont jeter des ordures dans ce lac, dans ce bassin-là, bouchant même les caniveaux, bouchant même le bâtiment des choses. Donc, de l'autre côté, il faudrait aussi qu'on puisse activer à tout moment les pompes qui vont faire ce que nous, parce qu'on ne peut pas attendre que le ministre soit là.
Le système de pompage,
on ne peut pas dire que la dernière fois, la plume, et que c'est quand le ministre est arrivé qu'on a actionné le système de pompage, alors qu'il le fallait depuis. Et puis, agrandir.
Il faut prendre des dispositions en amont. D'accord. Oui, Sylvestre.
Ce serait mieux qu'un ministre reste là comme ça, on va assurer le système de pompage. Il faut nécessairement qu'un ministre soit là pour l'actionner.
Oui, puisque c'est sa présence qui fait actionner.
Qui a fait action. D'accord. Donc il faudrait qu'avec chaque flux, nos ministres soient au niveau donc, des bassins de retention pour actionner le système de pompage.
D'accord. Alors, on clôture cette émission.
Non, écoutez, non, nous sommes. Moi, je compatis. Hein, je compatis parce que vous circulez un peu à l'eau, mais c'est véritable du. Avec ces inondations, il ne faudrait quand même pas se leurrer. Il y a des gens qui, surtout hein, au niveau donc des zones périphériques, la périphérie de Lomé, au niveau donc à Ouissazogo, au niveau de Sagbado, Lanclovi, vous allez dans ces zones-là, c'est la désolation véritablement.
D'accord.
Il faudrait qu'on puisse penser à gérer cela. Et puis l'eau aussi, l'eau potable. On me signale qu'à Sagbado, Pessoudi, la semaine dernière, ils n'ont pas eu ni eau ni électricité pendant 5 jours.
Les besoins de base.
Les besoins de base donc du Togolais. Il faudrait que le gouvernement puisse penser à cela.
D'accord. Docteur Mba, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot?
Oui, un mot. Merci aux assurés. Merci aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie. Et l'INAM est à l'écoute des assurés pour l'intérêt.
Merci, Monsieur Akakou.
Oui, je voudrais d'abord remercier aussi les auditeurs qui ont appelé, ça et ceux qui sont à l'écoute, et prier nos concitoyens quand même de soutenir ce projet du gouvernement pour la couverture maladie universelle. Ceux qui ont expérimenté INAM depuis 2012 savent que c'est une bonne chose. Mmh. Alors, faut pas que les inquiétudes sur la gestion, sur le système, nous amènent à décrier tout le projet. Alors donnons un peu le temps aux deux structures de faire l'expérience et nous pourrons faire des analyses et évaluer.
D'accord, je souhaite qu'on termine cette émission en toute douceur avec une voix douce, bien sûr. Et c'est la voix du docteur Rama à tout en nous. Docteur, nous sommes à la fin de cette émission. Et si vous avez un mot.
Le samedi 1er juin, nous allons célébrer la journée nationale de l'arbre qui marquera le lancement de la campagne nationale de reboisement. Donc, je voudrais lancer un appel à tous les acteurs et à chaque citoyen de participer massivement à cette campagne, de mettre en tête des plans, de les entretenir, et de les protéger pour assurer leur suivi et garantir leur évolution normale pour pouvoir contribuer efficacement à la réalisation de l'ambition décennale de reboisement d'un milliard de plants à l'horizon 2030. Prenez pas le chef de l'État. Merci.
Merci beaucoup, docteur Ama Toutonou. Le message est passé. Je rappelle que vous êtes la directrice des ressources forestières. Et merci beaucoup, docteur Mba, d'être passé dans cette émission. Merci à monsieur Akakpo Koutonet Komlan d'être passé aussi dans cette émission. Sylvestre Béni, merci à toi d'être passé dans cette émission. Abbas, merci d'être passé aussi dans cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Michel Tomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée entre-temps alors par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.